Vous nous écoutez en toute légalité sur France Inter et vous avez bien raison. Je vous laisse avec Nicolas Demorand, Un jour dans le monde.
Merci Florence Paracuelos, rendez-vous demain 18h.
This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Madonna Radio Globo.
From CNN Radio 7.
Radio Dacia.
O Brasil quer se vingar.
Turquia, Fotora, Slava, Rússia.
Bonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui en Amazonie, dans le partout ailleurs d'Éric Valmire. En Hongrie, reportage de Florence Labruyère sur le gouvernement de Viktor Orban qui a annoncé son intention de construire un mur anti-migration à sa frontière sud avec la Serbie. Cinéma, Laurence Perron nous parlera ce soir de deux films, le chef-d'œuvre de Miguel Gomez intitulé Les Mille et Une Nuits et Masaan, un film indien qui traite des castes et de la condition des femmes. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur la Grèce. Au lieu de saigner le peuple grec, nous dira Anthony, pourquoi ne pas tailler dans des budgets et dans des habitudes d'un autre temps? Mais tout de suite, la France, écoutée par les services secrets américains.
France Inter, Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Et c'est une coproduction journalistique Wikileaks, Libération, Mediapart, la publication de documents démontrant que la NSA américaine a écouté Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, au moins jusqu'à au milieu de l'année 2012, les présidents de la République donc, mais aussi leur entourage proche, premier ministre, conseiller, membre des différents cabinets, quand ce n'est pas carrément un standard téléphonique tout entier. Le précédent Angela Merkel, dont le téléphone portable avait été également mis sur écoute, laissait penser que les Américains ne se gênaient absolument pas pour espionner leurs alliés. La preuve en est faite une nouvelle fois avec la France. On en parle ce soir avec Johan Hufnagel. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Vous dirigez le quotidien Libération. Dites-nous en quelques mots quelles informations contiennent les documents que vous avez publiés, mis en ligne hier soir et publiés dans le Libération d'aujourd'hui.
Alors, la première information, et c'est une information de poids, parce qu'à la différence, je tiens à préciser ça, d'Angela Merkel, c'est qu'on n'avait pas la preuve absolue qu'elle avait été écoutée. On savait que son téléphone avait été peut-être mis sous surveillance, mais on ne savait pas si elle avait été écoutée. Là, c'est la première fois qu'un journal ou qu'un site, Libération et Mediapart, publie la preuve d'une écoute téléphonique de trois hauts dirigeants européens, français en l'occurrence.
Quel est le statut de ces documents confidentiels plus?
Alors, ils sont classés top secret, ce qui est la plus haute classification dans l'ordre du secret de la NSA et des services secrets américains. C'est le plus haut niveau de ce qu'on a pu en tout cas lire. Alors, peut-être qu'il y a d'autres niveaux au-dessus, mais en tout cas là, c'est vraiment du très très lourd.
Est-ce qu'il il n'y a pas dans les documents que vous publiez, qu'on peut lire donc dans Libération ou lire sur le site de Mediapart, il n'y a pas de scoop au sens strict d'informations qui ferait trembler la République sur ses bases et la verrait s'effondrer. Ce qui frappe en revanche une fois de plus, c'est l'ampleur du système d'écoute et son cynisme. On écoute même ses amis.
Absolument. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce qu'on a sorti. La première, d'abord, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'informations hors normes? C'est parce que ce sont les téléphones portables des dirigeants et les téléphones portables de comme vous et moi. C'est le téléphone qu'ils utilisent pour appeler leurs amis, leurs proches, etc., etc. C'est pas les téléphones ultra sécurisés. Enfin, peut-être que c'est le cas. En tout cas, Wikileaks n'en a pas apporté la preuve. Là, c'est vraiment des conversations le tout venant. Entre guillemets. Alors, tout venant, ça peut être du tout venant important, mais il n'y a aucune information de très première importance, comme par exemple les discussions sur la vente de Rafale, sur la guerre au Sahel, etc., etc. On est vraiment dans des discussions, je dirais, de seconde importance. Il n'empêche que avoir des gens aux États-Unis, dans le Maryland, au siège de la NSA, qui sont payés pour écouter ce genre de conversation, montre qu'il y a une pêche absolument phénoménale. C'est-à-dire que les Américains, parce qu'ils en ont la capacité technique, parce qu'ils en ont la capacité humaine et financière, d'écouter tout le monde, tout le temps, pour analyser tout et tout le temps.
Il y a quand même, Johan Hufnagel, je vais y arriver, une information assez intéressante et assez importante, c'est le dossier israélien, israélo-palestinien, que Nicolas Sarkozy veut prendre en main, c'est en 2008 si je me souviens bien. Et là, il y a tout de même des informations de background, comme on dit, sur une volonté française d'avancer sur ce dossier. dossier-là, éventuellement contre les Américains. Bon, c'est important, j'imagine, pour les Américains d'avoir ce type d'information.
Oui, mais c'est exactement comme ce qu'on avait déjà vu au moment des câbles diplomatiques qui avaient déjà sorti WikiLeaks. On apprend globalement pas grand-chose qu'on ne sache déjà en lisant la presse informée comme Libération, en écoutant France Inter et les spécialistes diplo. Alors, est-ce qu'ils prennent une longueur d'avance par rapport aux journalistes, effectivement, quand les journalistes de Libération vont suivre ces événements ou sont dans les discussions avec le chef de l'État ou ses conseillers, ils ont des informations qui se retrouvent dans le journal ou sur le site web en temps réel. Mais là, on est vraiment au cœur même de l'information. Mais effectivement, il n'y a pas de grosses révélations. C'est du background, c'est du contexte. C'est aussi, je dirais presque, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est presque du profilage psychologique. Mais alors après...
Sarkozy est impétueux.
Voilà, Sarkozy est impétueux. Sarkozy a un ego démesuré, payer des gens, là aussi la NSA des fortunes probablement pour apprendre que Nicolas Sarkozy a un ego démesuré, c'est quand même là aussi assez hors norme.
Est-ce que la NSA est devenue un monstre ?
La NSA et l'ensemble des services, de la communauté du renseignement, comme on dit aux États-Unis, est hors norme. Depuis le 11 septembre, les Américains, qui sont évidemment été extrêmement choqués par cet attentat, ont beaucoup misé sur le renseignement, qui avait été une des grandes failles du 11 septembre. Et ils ont construit un système absolument énorme de la NSA. Alors tout le monde écoute tout le monde, la NSA écoute pour beaucoup. Je crois qu'il y a environ 4 millions et demi de personnes qui travaillent dans la communauté du renseignement.
4 millions et demi.
Et un million d'entre eux, ou un peu plus d'un million, sont habilités à lire du classifié secret. Ce qui est énorme. Mmh. Ce qui est probablement aussi, comme on le disait dans Libération ce matin, presque le pied d'argile, le talon d'Achille de renseignement aux États-Unis.
Oui, c'est-à-dire s'il y a 4 millions et demi de personnes, il y en a une qui à un moment va dire...
Un Snowden, qui peut sortir ce genre d'informations. Et c'est aussi comme ça qu'on a accès à la connaissance et à des informations qui sont certes secrets, mais qui ne sont pas démentes. Mais d'apprendre que les chefs de l'État ont été écoutés,
c'est une information en soi. C'est un monstre, donc, je vous repose la question, la NSA.
J'ai l'impression que c'est un monstre. D'ailleurs, les Américains s'en sont aussi émus. Presque près de 10 ans après la signature, la mise en place du Patriot Act, ils ont commencé un peu à revenir en arrière. On se pose toujours la question de est-ce qu'il y a eu des attentats qui auraient pu être empêchés grâce à ce monstre ? Parce que oui, c'est un monstre. Les capacités d'écoute, aujourd'hui, sont hors normes. Je ne pense pas que tous les Américains soient écoutés. En tout cas, tous les Américains sont potentiellement surveillables. Que les dispositifs utilisés les Américains, et pas que les Américains, ce que nous sortons avec Mediapart en est la preuve, c'est que tout le monde peut être écouté. Là, c'est indifférencié, c'est la fameuse pêche au chalut. Et donc, on se pose la question à un moment de comment ça se nourrit. C'est-à-dire que plus il y a du monde, plus il faut nourrir la bête, plus il faut des moyens, et plus on va demander les crédits, et plus on se demande si les moyens qui ont été alloués pour l'antiterrorisme vont pas déborder vers d'autres lieux de pêche qui seraient moins nobles, entre guillemets.
Alors justement, vous le disiez, vous venez de le redire, au départ c'est l'antiterrorisme, et puis on en vient à traquer la conversation de Nicolas Sarkozy sur la qualité du rhum cubain et l'aide qu'il peut apporter ou non à une grande entreprise française qui en fabrique. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un devenir nécessairement hors la loi, hors norme de ces outils électroniques pensés dans un premier temps dans le cadre de la lutte antiterroriste ?
J'ai peur que la tentation soit très grande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des outils comme ça qui sont en plus indétectables, que ce soit les boîtes noires qu'on va mettre chez les opérateurs ou les IMSI catchers, ces fameux dispositifs qu'on met à un endroit qui vont pouvoir attraper toutes les métadonnées qu'on va trouver dans un rayon de 500 mètres, la tentation est grande pour qu'à un moment, quelqu'un qui n'est pas forcément un grand démocrate puisse s'en servir pour son propre usage, son usage personnel, l'usage de son clan. Et ça, je crois qu'il faut effectivement faire attention. C'est là où on revient sur l'ogre de la surveillance. C'est que, sans tomber dans le délire et la paranoïa du Big Brother, on est quand même sur des choses qui sont indifférenciées, indiscriminées. On parle aussi des fameux faux positifs. C'est-à-dire quand on écoute...
C'est quoi ça ?
C'est quand on écoute... quand on surveille des discussions avec notamment les fameuses métadonnées, on va essayer de trouver des motifs. Les algorithmes vont essayer de trouver, tiens, A plus A plus A plus B plus B plus B, ça veut dire que cette personne est probablement un terroriste. Je schématise, mais évidemment, il n'y a pas de réussite à 100%. Mmh. Et si on s'approche ne serait-ce qu'à 95% de la vérité, c'est bien qu'il y a 5% de faux. Ces fameux faux positifs fait que si on écoute 200 millions de conversations, eh bien on va se retrouver avec 10 millions de faux positifs. Et donc on va écouter des gens qui sont totalement innocents et qui peuvent se retrouver dans des difficultés très très grandes. Mais vous savez, c'est quand on parlait du fameux fichier Stix en France, où des gens ont perdu leur boulot parce qu'ils étaient dans ces fichiers-là alors qu'ils n'avaient strictement rien à se reprocher, ou tellement peu de choses, et parce que ce fichier était avait une durée de vie qui était extrêmement grande, on va se retrouver dans des systèmes comme ça qui sont hors normes et qui vont durer.
Vous signez ce matin dans Libération un éditorial que je qualifierais de colère froide. Est-ce que vous pensez que de telles révélations traumatisent les citoyens que nous sommes, ou qu'au fond, à part une frange extrêmement mobilisée sur ces sujets, une frange extrêmement soucieuse de la défense des libertés publiques, bon, bah, finalement, ça suscite de l'indifférence?
Déjà, ça suscitait beaucoup d'intérêt. D'abord parce qu'il y a eu effectivement la preuve. Après, une fois qu'on a la preuve, c'est l'exemple que je donnais, c'est un peu le dopage dans le Tour de France. Avant 97, tout le monde disait, oh, de toute façon, ils sont tous chargés, on le sait bien. On n'avait jamais eu la preuve de quoi que ce soit. Et puis en 97, scandale Festina, on apporte la preuve que de nombreux cyclistes sont dopés et que c'est un véritable système. Ça n'a pas empêché les gens de continuer à regarder le Tour de France, à se passionner pour le Tour de France, à être quasiment de plus en plus nombreux chaque année pour le suivre. J'ai un peu l'impression que les thématiques de surveillance en général laissent un peu froid les Français, pour deux raisons, les Français, pas uniquement les Français. D'abord parce que ils n'ont pas l'impression d'être eux-mêmes suspectés. La grande phrase qu'on entend, c'est « tant que j'ai rien à me reprocher ».
Oui, j'ai rien à me reprocher, donc...
Mais alors, tous les exemples qu'on peut leur donner, c'est oui, mais quand vous envoyez un courrier, par exemple, vous le mettez dans une enveloppe, vous n'envoyez pas une carte postale avec « gros bisous maman » ou « si jamais c'est votre mère, ça va ». Si jamais c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas forcément envie de dire les choses, donc à de les montrer au facteur, voilà, donc, ce genre d'image marche un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une habitude, ce genre de sujets sont aussi extrêmement complexes à faire comprendre. Et le complexe de la surveillance des métadonnées, des écoutes, sont des mots, des concepts difficiles. Et puis peut-être aussi une responsabilité des médias de ne pas avoir su expliquer en quoi c'était problématique. On a essayé, et il y a beaucoup de sujets comme ça où on essaie de passionner les lecteurs, sortir une information comme les écoutes des présidents de la République, c'est des choses qui frappent et qui montrent que si on est capable d'écouter les téléphones des présidents
de la République, les
nôtres
sont
ouverts. Écouter
ceux
de Nicolas de Morant, évidemment. Et puis tout le monde. Mais après, c'est très compliqué de leur dire, d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que ça peut leur tomber dessus. Pourquoi est-ce que si jamais demain ils vont manifester parce qu'ils sont syndicalistes ou parce qu'ils sont contre les OGM ou parce qu'ils sont contre les réfections de bureaux hors de prix, ils vont se retrouver écoutés à l'insu de leur plein gré et que ça va à un moment leur poser des problèmes.
Et la France, le projet de loi renseignement, ça y est tout chaud, hein, il va être adopté. Est-ce que nous aurons notre petite NSA, la française?
J'ai bien peur que ce soit le but, mais c'est exactement ça, sera une petite NSA, la française. On va avoir à peu près les mêmes moyens que la NSA américaine. D'ailleurs, l'essentiel de ce qui va être mis en place, c'est la légalisation de ce qui se fait de ce qui se fait déjà. Donc ça, on rentre dans un droit chemin, où le droit chemin rentre dans la légalité. Mais c'est vrai que les dispositifs techniques sont les mêmes, mais avec des moyens qui sont différents. Tout à l'heure, je disais 4,5 millions d'Américains dans la communauté du renseignement. Je crois qu'en France, on doit être à 30 ou 40 000. Donc c'est évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Un rapport de 1 à 100, les moyens sont évidemment bien, bien différents.
Cette loi est liberticide?
Je pense pas. C'est un des grands des grandes différences qu'il peut y avoir d'explication entre certains journalistes et des opposants à cette loi-là. Je n'imagine pas Bernard Cazeneuve ou Jean-Jacques Urvoas, qui est le rapporteur de la loi, se transformer demain en petit dictateur. Ce sont des républicains évidemment convaincus. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'abord c'est la violence de leurs échanges. Quand on parle de liberté publique, quand on parle de dialogue, quand on demande des exigences de preuves, d'essayer de comprendre jusqu'où ça va nous mener, parce que les choses sont extrêmement floues et que les opposants se sont fait rembarrer de façon extrêmement violente, je trouve que c'est un vrai problème. Et il y a aussi cette fameuse dérive de l'ogre qui, à un moment, la machine va se nourrir, et puis on ne sait pas de quoi demain sera fait. Des présidents ont déjà montré qu'ils avaient été indélicats par le passé. Leur donner des accès à des moyens d'écoute écoutes de surveillance qui sont hors normes.
Et légaux, désormais.
Et légaux sont, je trouve, extrêmement inquiétants.
Alors, je vous propose d'écouter maintenant Philippe Bomard. Il est professeur à l'école de guerre économique. Au micro de Dominique André, écoutez, il campe le paysage contemporain de l'espionnage de masse.
Tous les États modernes du G7 savent que les Américains ont des capacités d'écoute en Europe. Et ça faisait partie du plan Marshall, du plan de défense européen et du traité atlantique. Maintenant, ces capacités-là sont des capacités qui ne sont pas censées être là pour écouter les amis, pour des motifs politiques ou des motifs commerciaux. Donc oui, on savait, il y avait déjà eu récemment, il y a, dès 2005-2006, la présidence française avait fait entendre qu'elle ne voulait pas faire l'objet d'écoute avant même qu'il y ait les révélations de Snowden, puisque c'est... Cette capacité américaine à avoir des écoutes omniprésentes, urbi et orbi, est inquiétante pour les alliés, est inquiétante pour les partenaires des États-Unis, parce qu'il faut jouer franc jeu, il faut jouer de façon équitable, aussi bien au niveau commercial que d'un niveau de défense.
Donc ce qui est surprenant, là, finalement, c'est le niveau d'écoute et non pas le fait qu'il y a eu des écoutes, si je vous suis.
C'est le niveau d'écoute, c'est l'ampleur, le systématisme. Il y a un écart de budget énorme, hein. Le budget du renseignement américain, c'est 50 milliards. Si on inclut le Homeland Security, donc la sécurité intérieure et la sécurité civile, le budget renseignement signal, donc ce budget d'interception, c'est 1 ou 2 milliards à peu près. Donc il y a un écart de 1 à 10 ou 1 à 15 par rapport au budget européen. Donc ça, c'est déjà inquiétant, puisque inquiétant, c'est le systématisme. Après, les Américains ne sont pas les seuls à avoir une écoute systématique de grande ampleur. La Chine, elle aussi, intercepte l'intégralité du trafic Internet mondial, et les Russes aussi. Donc il y a trois grandes puissances mondiales qui sont aujourd'hui capables d'intercepter l'intégralité du trafic numérique mondial.
Est-ce qu'il est techniquement possible que des communications ne soient pas interceptées ? Le téléphone du président, du chef de l'État, est crypté normalement ?
Il est chiffré, c'est possible, ça coûte cher. Angela Merkel avait fait développer un terminal, qui est un terminal double cœur, par un ingénieur allemand qui est extraordinaire, qui s'appelle Christopher Paylo. À ma connaissance, la technologie de Paylo n'a pas été compromise. Donc ça veut dire que les moyens d'écoute déployés par nos alliés ou nos non-alliés sont pas de cette nature. Ça veut dire que c'est peut-être de l'écoute qui est plus offensive et plus directe, c'est-à-dire de l'écoute carrément physique dans les locaux ou dans les salles de décision. On peut se protéger. La France a parmi les meilleurs chercheurs en cryptographie et en chiffrement de la planète. On a d'excellents ingénieurs, on a d'excellentes capacités de recherche en France. On sait se protéger. Maintenant, la nature des opérations qui sont menées sont vraiment très, très offensives.
Là, vous parliez d'Angela Merkel, mais est-ce que le téléphone de François Hollande est protégé au même niveau que celui d'Angela Merkel ?
C'est un téléphone chiffré, peut-être un peu moins bien que celui d'Angela Merkel, pas au niveau du chiffrement, mais au niveau de la technologie. Par rapport aux capacités de cassage de chiffres que peut avoir la NSA, on est sur des centres de calcul auxquels on n'a pas accès, nous, en Europe. Et la NSA peut casser n'importe quel chiffre aujourd'hui. C'est qu'une question de temps. S'ils prennent une semaine, deux semaines, ils cassent ce qu'ils veulent, même le chiffrement les plus élevés qui existent. Donc, il y a un écart, il y a une asymétrie qui est très, très lourde entre les États-Unis et le reste du monde aujourd'hui. En termes d'agressivité, il y a d'autres grands acteurs qui sont offensifs, comme la Chine et la Russie. Et en termes de puissance de calcul, puissance de déploiement et ampleur de déploiement, personne aujourd'hui ne bat les Américains. Et c'est un souci.
Quand vous dites que tout va être mis sur la table, que peut faire la France qui a convoqué l'ambassadrice des États-Unis ? Donc mettre des choses sur la table, et puis quoi au bout du compte finalement ?
Il y a des règles du jeu, il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux commerciaux, on est en train de négocier un traité atlantique et un espace de libre-échange économique auquel les Américains tiennent beaucoup. Donc s'ils tiennent beaucoup à ce qu'on appartienne au même espace d'échange économique, ce serait bien qu'on respecte tous les règles du jeu et qu'il y ait un certain fair-play. Donc on n'est pas complètement dénudé en termes de négociation. Il y a la situation en Ukraine, il y a des questions fiscales qui sont importantes pour les Américains. Le secteur numérique qui ne paye pas ses taxes en Europe, ça peut être aussi mis sur la table. On est à peu près à 80-90 milliards de déficit de paiement d'impôts des grands opérateurs numériques américains. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre sur la table. Il y a plein de choses que la France, l'Allemagne, l'Italie peuvent mettre sur la table en disant si on peut discuter d'autres sujets en incluant ce sujet-là. Le fair play peut être discuté sur d'autres aspects que simplement le fair play de renseignement et d'écoute entre amis.
Donc on peut penser qu'il y a une réaction à minima, une réaction publique à minima, et puis peut-être un silence officiel qu'on va troquer contre d'autres informations du côté du gouvernement français.
Je pense pas que c'est une question de troc, de silence officiel. Je pense qu'il n'y aura pas de silence, il y aura simplement des négociations. Les Américains sont nos alliés. On a besoin d'eux en termes de coopération de renseignement. Il ne faut pas oublier que cette capacité d'interception de signal, elle n'est pas uniquement dirigée contre les amis, elle est aussi à grande majorité dirigée vers les ennemis communs. Donc 90% des capacités sont mobilisées pour lutter contre les menaces qui menacent l'Europe, le terrorisme, le blanchiment d'argent. Donc ce sont des alliés avant tout. Maintenant, c'est pas un silence, c'est simplement qu'il faut que chacun respecte les règles du jeu pour pas remettre en cause cette coopération. Après, tout le monde est conscient que le timing qui est celui de ces révélations est quand même un timing qui arrange beaucoup plus les Russes, les Chinois et d'autres puissances étrangères que les Américains. Les Américains n'avaient pas intérêt à ce que ces révélations aient lieu le jour où on vote une législation qui est une législation de défense et de renforcement du renseignement numérique. Donc la question, c'est qui est-ce qui mène la musique et qui est-ce qui écrit la partition des révélations et de la déstabilisation de l'Allemagne, de la France. C'est certainement pas les États-Unis. Donc ça aussi, ça doit être discuté. Comment on fait front commun par rapport à des tentatives de déstabilisation qui sont certaines, qu'on connaît, et qu'il va falloir gérer. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à avoir un front désuni au sein du G7?
Voilà, c'était Philippe Bomard, professeur à l'école de guerre économique, au micro de Dominique André. Qui dicte le tempo? Qui écrit la partition? Chine, Russie, deux monstres aussi de la surveillance numérique mondiale. Votre analyse, votre sentiment, Johann Hufnagel?
C'est vrai qu'à chaque fois qu'une information comme ça hors norme sort, elle a forcément un intérêt pour quelqu'un, en tout cas pour deux personnes, là en l'occurrence ceux qui éventuellement sortent cette information, mais ça peut être un lanceur d'alerte qu'on découvrira peut-être plus tard. Ça peut effectivement, pourquoi pas, être des Russes ou des Chinois. Là, en l'occurrence, ça intéresse aussi les journalistes et les Français de savoir qu'ils ont été écoutés. On est peut-être un peu manipulé quelque part. Il n'empêche que l'information a un intérêt et c'est un intérêt qu'il faut porter à la connaissance du public.
Pas encore de Snowden ni de Assange venus de Chine ou de Russie.
Il y a beaucoup de gens qui disent, évidemment, et c'est le principal reproche que ces personnes font à Wikileaks, c'est vous ne sortez rien sur la Russie, vous ne sortez rien sur la Chine. Il se trouve que les États-Unis et la France sont quand même des démocraties, et que ça implique un certain niveau de responsabilité aussi dans le rapport qu'on a avec la surveillance. Jusqu'à preuve du contraire, la Chine et la Russie ne sont pas des démocraties exemplaires, loin de là.
Johann Hufnagel, merci. Vous dirigez Libération qui publiait ce matin donc ces révélations en coproduction avec Mediapart et Wikileaks. L'ensemble est à lire en version papier si on aime ça, ou évidemment sur le site internet de Libération, www.libération.fr.
Je crois.
Voilà, 18h39, merci.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Il y a une semaine, le gouvernement de droite populiste de Viktor Orban a annoncé son intention de construire un mur anti-migration à sa frontière sud avec la Serbie. C'est une clôture de 175 km de long et de 4 mètres de haut. Avec 60 000 demandeurs d'asile depuis le début de l'année, la Hongrie connaît un afflux de migrants. C'est incontestable, mais en réalité, 90% d'entre eux, en majorité des Afghans, des Syriens, des Irakiens, ne restent que quelques jours en Hongrie. Hongrie. Ils partent immédiatement vers l'Autriche et l'Allemagne. Contrairement à la Grèce et à l'Italie, la Hongrie ne connaît donc aucune crise humanitaire. Il n'empêche, le gouvernement a lancé une campagne contre les migrants, une campagne de haine à destination interne pour détourner l'attention des affaires de corruption et flatter les lecteurs ultranationalistes. Mais cette campagne n'est pas du goût de tous les Hongrois. Certains réagissent en imprimant des affiches contre la propagande du pouvoir. À Budapest, c'est la guerre des affiches. Florence Labruyère, reportage.
Là, on est devant une affiche, en face du grand restaurant Gundel, près du parc de Budapest. On l'avait déchirée une première fois, mais ils en ont recollé une autre.
Renata Cic est une étudiante de 23 ans. Elle milite dans un petit parti d'opposition centriste. Avec ses amis, elle a déchiré les affiches du gouvernement hongrois. Des affiches qui disent « Si vous venez en Hongrie, vous n'aurez pas le droit de prendre le travail des Hongrois ». Un message xénophobe, selon Renata.
Cette campagne nationale qui fait l'amalgame entre immigration et terrorisme, c'est vraiment une honte. On n'est pas les seuls à déchirer les affiches. Il y a aussi de simples citoyens. Le gouvernement incite les gens à la haine.
Les panneaux du gouvernement sont rédigés en hongrois. On voit mal comment des étrangers pourraient les comprendre. Mais ces slogans ne sont pas faits pour être lus par des immigrants, comme l'explique Samuel Agoston Mraz, directeur d'un think tank de droite financé par le gouvernement.
Pour être franc, ce n'est pas une campagne d'information pour les migrants. Si on voulait faire ça, il faudrait mettre des panneaux dans plusieurs langues. Les langues des Balkans, les langues des pays africains. Cette campagne vise à lancer un débat en Hongrie pour que la migration devienne un thème important et que les gens s'intéressent à la consultation nationale.
Pour ce politologue, la campagne du gouvernement n'est pas xénophobe.
Ces phrases disent que les migrants ne devraient pas prendre le travail des Hongrois et qu'ils doivent respecter les lois. Ce sont des messages forts, c'est sûr. Ça fait partie d'un langage politique ferme, mais ce n'est pas xénophobe.
Presque tous les panneaux du gouvernement ont été arrachés ou gribouillés. Sur les murs et sur Internet, on voit fleurir les slogans qui tournent en dérision la propagande du pouvoir. Gergely Kovács, président du parti satirique hongrois, est en train de faire imprimer 800 affiches.
On veut montrer aux étrangers qu'on est plus accueillant que notre gouvernement. Alors on aura des slogans en anglais. Bienvenue en Hongrie. On s'excuse d'avoir un premier ministre pareil. Et bien sûr, on aura des affiches en hongrois sur les affaires qui touchent le gouvernement. Parce que c'est le but de leur campagne de haine. Ils veulent détourner notre attention des scandales.
Mais à la télévision et à la radio, on entend tous les jours la propagande du gouvernement. La Hongrie connaîtrait une invasion de réfugiés et ce sont tous des terroristes potentiels. Pour Gábor Gyulai du comité Helsinki des droits de l'homme, cela ne correspond pas du tout à la réalité.
C'est vrai, il y a beaucoup plus de demandeurs d'asile qu'avant, mais c'est aussi vrai que la grande majorité s'en vont tout de suite. Donc ils quittent la Hongrie dans 2, 3, 4, 5 jours. Donc c'est pas les mêmes chiffres que les chiffres en Allemagne ou en France ou en Suède où les demandeurs d'asile restent pendant des mois, des années. En Hongrie aussi, la grande majorité des demandeurs d'asile vient de l'Afghanistan, de la Syrie et de l'Irak en ce moment. Donc là, trois quarts des demandeurs d'asile, par exemple, au mois de mai, étaient des réfugiés de guerre. Donc je me demande s'ils ne sont pas les vrais réfugiés qui le sont.
La plupart des migrants passent en Hongrie par le sud, par la Serbie. Le gouvernement de Viktor Orban veut durcir la loi pour leur dénier le droit d'asile et les renvoyer automatiquement en Serbie.
Hongrie, la guerre des affiches. Reportage signé Florence Labruyère.
Thanks so much for that report.
Et à 18h44, partout ailleurs. Bonsoir Eric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Direction aujourd'hui l'Amazonie.
Avec Almir Narayamoga, chef de la tribu des Surui, 1400 Indiens dans la province très reculée de Rondônia, dans l'Amazonie brésilienne. Il a engagé un combat contre la déforestation. En un demi-siècle, un cinquième de la forêt amazonienne a disparu, vous le savez, sous la pression de l'élevage, de l'agriculture intensive, de la production de bois, responsable de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la production de coke par les cartel de la drogue qui n'hésite pas à battre les arbres pour faire des plantations. Almir Narayamoga a toujours son cocard sur la tête. C'est une coiffe faite de plumes d'aigle. Et je vous invite sur franceinter.fr, sur la page Partout ailleurs, à découvrir sa magnifique photo. Il ne se contente pas de solliciter les gouvernements et décideurs, il lance aussi des programmes comme le projet de compensation carbone qui préserve la forêt, le Rondônia est la région la plus touchée d'Amazonie. 40% des forêts ont été détruites. Ce combat lui vaut de voir sa tête mise à prix par les braconniers et les cartels cartel de la drogue. Il vit sous escorte policière. Et au plus fort de la menace, il s'était même réfugié aux États-Unis en 2007. Il a profité de ce séjour pour rencontrer les leaders de Google. Et incroyable, engagé avec eux un partenariat. Lui, l'Indien qui venait de sa forêt, a réussi à signer avec Google Earth un partenariat qui fait que tous les Indiens se sont vus équipés de micro-ordinateurs, formés à leur pratique. Et avec Google Earth et un système GPS adapté, ils ont pu localiser en temps réel les abattages illégaux faits par les braconniers. Ce soutien inattendu et fort symboliquement, puisqu'il a influé ensuite sur les décisions politiques qui ont évidemment attiré l'attention. Almir Narayamoga.
Notre partenariat avec la technologie, en spécial Google,
notre accord avec Google, mais d'autres partenaires aussi, est essentiel pour lutter contre la déforestation.
Toma posição como atitude do governo para resolver esse problema.
Donc notre position ne consiste pas à essayer de préserver la forêt vierge intacte. C'est en fait de tirer des bénéfices de la forêt sans la détruire, de la rentabiliser pour créer un développement économique.
De uso do nosso planeta sustentável.
Vu d'ici, les aborigènes sont des êtres sans défense qui se font massacrer. Vous prouvez que vous arrivez à intéresser les investisseurs, que vous arrivez à intéresser Google, on le disait à l'instant. C'est une démarche qui est incroyable parce que vous représentez quoi? Vous êtes combien aujourd'hui? 1400, je crois, de mémoire. Et vous arrivez tout de même à attirer le regard de la communauté internationale rien que par votre propre combat. C'est une surprise pour vous?
Bon, je pense qu'à travers des...
À travers notre plan, parce qu'on a un plan sur 50 ans, et la clarté de ce plan, c'est ça qui est attractif et qui intéresse les dirigeants politiques, par exemple.
On n'est
pas dans l'idée que notre peuple ne veut pas se poser en victime. Il veut contribuer à une amélioration des conditions tant environnementales que politiques.
Nous sommes prêts pour discuter.
Nous sommes prêts à discuter
solutions,
des solutions
pour les problèmes, desmatamento, mudança climática,
pour régler ces problèmes de déforestation, changement climatique, développement économique.
Nós temos condições de fazer isso.
Nous avons des conditions pour faire ça.
Na maneira que a gente possa.
Donc dans la mesure de nos moyens.
Então a união de todas as pessoas são importantes para fazer isso acontecer.
Donc une fois encore, c'est en nouant des alliances et dans l'union que on espère faire avancer les choses.
Un mot du contrat, parce que est-ce que cette histoire de contrat de 100 000 $ qui est mis sur votre tête pour 100 000 $ pour celui qui réussira à vous assassiner, est-ce que c'est ce contrat-là qui vous incite à livrer ce livre témoignage à vos enfants et au reste du monde?
La menace, c'est pas ce qui importe le plus, les menaces qui peuvent peser sur moi, c'est de vraiment alerter l'opinion et faire passer le message. Notre volonté, c'est de trouver le moyen de construire un chemin viable, et donc on est tourné vers l'avenir, et c'est pour tout le monde.
Quem défend floresta et défend futuro.
Défendre la forêt, c'est défendre l'avenir.
Quem defende floresta defende equilíbrio climático.
Défendre la forêt, c'est défendre l'équilibre climatique.
Quem defende floresta defende qualidade de vida.
Défendre la forêt, c'est défendre la qualité de vie.
Non.
Ceux qui déboisent la forêt de manière illégale nous accusent d'être dans l'erreur, alors que notre combat est juste.
Nós queremos contribuir com responsabilidade.
Almir Narayamoga, toujours menacé de mort. Dans un livre publié chez Albin Michel, il écrit un texte, un manifeste, Sauver la planète, une lettre ouverte à ses 5 enfants au cas où ils seraient assassinés. À quelques mois de la conférence climat de Paris, qui doit parvenir à un accord pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Et alors qu'on cherche toujours, Nicolas, à concilier écologie et économie, ce texte a une visée plus large que la défense de l'autonomie, l'instauration d'un mode de développement planétaire qui passe aussi par la responsabilité individuelle.
Merci Eric Balmire. Tout de suite, Laurence Perron.
Moteur.
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Et moteur, oui, bonsoir ma chère Laurence.
Bonsoir.
Cette semaine, vous nous parlez de deux films étrangers à ne pas rater, un Indien et un Portugais.
são só o realizador fugiu e eu também vou atrás para a companhia.
Vocês não são bons da cabeça. Eu vou parar no país viajar.
Alors on va oser les gros mots, hein. En ce qui concerne le portugais, Les Mille et Nuits de Miguel Gomes est un chef-d'œuvre. Alors c'est quoi un chef-d'œuvre? Eh bien c'est une œuvre pleine, ample, qui fait reculer les possibles du cinéma, qui porte un propos sur le monde avec une forme tout à fait singulière. Les Mille et Nuits, c'est tout ça. C'est une saga de 6h30 qui sort tout l'été en 3 volets de chacun 2 heures. Un Star Wars du pauvre, dit le cinéaste. Gomes a sondé pendant des mois avec 3 journalistes le Portugal en crise et il en restitue de manière à la fois très drôle, très poétique, très politique, des histoires à dormir debout. Alors il y a un coq qu'un tribunal a condamné à la peine capitale parce qu'il chante au milieu de la nuit. La Troïka européenne qui débarque au Portugal pour lui infliger une cure d'austérité. Le problème, c'est que ses émissaires de la finance mondiale, à force de s'être gavés, sont désormais affublés d'une monstrueuse érection qu'ils ne parviennent plus à endiguer.
À endiguer, voilà. Bah alors on va rester dans les érections non endigables ou contrariées. Mais cette fois, il s'agit d'un film indien.
Oui, Massan, du jeune réalisateur Neeraj Gewan. La preuve, s'il en fallait une, qu'il existe un cinéma indépendant nerveux face à Bollywood. Là, ce sont les destins croisés d'une jeune femme et d'un garçon, victime du système des castes et de traditions obscurantistes. Le film se passe à Bénarès, le lieu sacré de l'Inde, au bord du Gange, là où se pratiquent les crémations réservées aux plus purs, aux plus riches. Et le film s'ouvre par cette scène.
Thank you.
Et c'est là qu'on est dans l'érection contrariée à nouveau. La police fait irruption dans une chambre où un couple non marié fait l'amour. Richa Chadha, la comédienne principale du film.
C'est quelque chose dont on ne discute toujours pas ouvertement dans la famille. Le personnage que je joue vient de la petite classe moyenne. Elle n'est pas riche, mais même dans les familles richissimes, ce n'est pas facile du tout. Ça arrive de plus en plus souvent, mais il y a encore 10 ans, les relations sexuelles hors mariage étaient exceptionnelles. Et c'était un vrai problème. Aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de gens qui militent pour ça, il reste que les partis politiques et le gouvernement sont toujours très conservateurs. Et plutôt que de donner une vraie éducation sexuelle aux enfants, ils escamotent le sujet qui ne ressurgit que le jour du mariage.
Alors, outre la sexualité, le film enfourche aussi de manière assez allègre le verrouillage de la société indienne par les castes. C'est un combat toujours d'actualité.
La caste est une institution religieuse. Si votre mère est écrivain, vous devez devenir écrivain. Vous ne pouvez pas devenir barbier ou commerçant ou exercer une autre profession. Dans le film, Deepak est issu d'une caste qui s'occupe des crémations. Pour s'en sortir, il doit se battre. Il doit se battre pour faire des études, pour obtenir un travail d'ingénieur. Le système des castes est toujours très rigide en Inde. Les gens disent qu'il s'assouplit, mais oui, c'est vrai que c'est mieux, mais c'est toujours là.
Et vous pensez porter un message pour ces femmes en Inde grâce à ce film ?
J'en serais très heureuse. Si elles peuvent comprendre en voyant le film qu'elles doivent mener leur propre bataille avec force, parce que dans son ensemble, la société considère que la place des femmes, c'est de se marier, d'avoir des enfants et d'être de bonnes épouses, de bonnes mères. Il y a tout de même des changements. La société est en mutation. Les films de Bollywood en parlent peu, mais quand on fait des films indépendants comme Massan, qui sont appréciés dans le monde, ça permet de rendre les gens plus conscients.
Richa Chadha, la comédienne de Massan, le film indien aujourd'hui au cinéma et donc à ne surtout pas rater ce chef-d'œuvre, Les Mille et Une Nuits, épisode 1 de Miguel Gomes, comme vous l'avez dit. Merci Laurence Perron.
Un jour dans le monde.
Qu'allez-vous dire ?
Un pour tous, tous pour un.
Merci Anthony Bélanger.
Vous pourrez attendez, vous allez beaucoup trop vite.
Plutôt heureux maintenant ?
Eh oui, il a bossé quand même. Hein.
Sur France Inter.
Bonsoir mon cher Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Aujourd'hui la Grèce, encore la Grèce, toujours la Grèce.
Eh oui, impossible en ce moment de ne pas évoquer les négociations entre la Grèce et l'Union Européenne. On ne parle que de cela. Et donc moi aussi, il n'y a pas de raison. Alors je vais essayer d'être un tout petit peu iconoclaste, juste un peu. D'abord, chapeau bas à la Grèce qui depuis 2009 quand même occupe le devant de l'actualité comme aucun autre pays affecté par la crise, ni le Portugal, ni l'Irlande, ni même l'Espagne, car je le rappelle quand même 4 fois plus peuplée, n'ont eu la même couverture médiatique. Alors, il y a une raison objective à cette passion européenne pour la Grèce. Quel autre pays en Europe a-t-il perdu plus d'un quart de sa richesse en quelques années? À quel autre pays de l'Union exige-t-on autant de réformes en si peu de temps? Eh bien, moi, je peux vous le dire, aucun. On a exigé, on exige encore de la Grèce qu'elle réforme ses impôts et leurs collectes, ses retraites, son système de santé, son cadastre, ses banques, son système éducatif et surtout qu'elle diminue le nombre de ses fonctionnaires. Qui dit pire?
Et pourtant, Anthony, vous dites qu'il y a quand même encore des économies à faire.
Eh oui, et là, je sais que je risque gros tant le débat est passionné, mais allons-y. Parce que la vérité, effectivement, c'est qu'il y a encore du gras en Grèce. Commençons par le plus évident, à savoir le budget militaire du pays. Il est encore aujourd'hui le plus élevé de l'Union européenne. La Grèce dépense en pure perte, à mon avis, 2,5% de sa richesse nationale à acheter des chars, des frégates ou des avions de chasse, c'est-à-dire en proportion, hein, plus que la France ou la Grande-Bretagne. Alors, pour être tout à fait juste, le budget militaire de la Grèce a diminué quand même de 40% et en 4 ans, mais on peut encore faire mieux, et si le gauchiste, hein, Tsipras ne le fait pas assez, eh bien c'est pour de mauvaises raisons, c'est parce qu'il est allié au Parlement avec des nationalistes passablement militaristes.
Et puis vous dites par ailleurs, Anthony, que la Grèce peut aussi faire des économies sur les retraites?
Alors là c'est encore pire, c'est un terrain carrément miné, mais la réalité c'est que les retraites des Grecs représentent 16 à 17% de la richesse du pays, contre par exemple 13% en France. Or, 17%, c'est un record, encore une fois, en Europe, et un poids énorme pour l'économie du pays. Alors, c'est un choix de société, en fait, hein. L'État grec a choisi depuis 30 ans de favoriser ses vieux au détriment des actifs. Par exemple, eh bien, tous les retraités grecs ont droit à la sécurité sociale, alors que beaucoup de jeunes et d'actifs n'ont pas de couverture santé. En fait, s'il y a du gras, c'est pas tant sur le niveau des retraites que sur le système des pré-retraites. Beaucoup de Grecs peuvent partir avant l'âge légal, c'est-à-dire 62 ans, en touchant jusqu'à 75% de leur dernier salaire. C'est aussi là qu'il y a des économies à faire.
Et puis dernière piste, Anthony, la TVA sur les commerçants et les hôteliers.
Et ça, c'est très important à comprendre. Les commerçants, les hôteliers et les restaurateurs grecs refusent depuis toujours de payer l'impôt. Ils fraudent le fisc comme personne ailleurs en Europe, en passant beaucoup de leur chiffre d'affaires au noir. Alors, le seul moyen de récupérer l'impôt, c'est donc la TVA, puisqu'elle s'applique sur ce qu'ils achètent et sur ce qu'ils vendent. C'est simple, c'est efficace et ça oblige les boutiquiers à participer à l'effort national. Alors, évidemment, ils hurlent comme des moutons qu'on égorge. En fait, ce qu'il faut changer en Grèce, c'est l'habitude de prendre l'État pour un tiroir-caisse alimenté par l'Europe. Et c'est pour cela qu'Alexis Tsipras a été élu. Et c'est sur cette base qu'un accord devrait être trouvé, je vous le donne dans le mille, à Bruxelles dans les jours qui viennent. Il faut juste garder son calme.
Merci Anthony Bélanger, soignez cette belle voix grave avec du miel et du citron. C'est le docteur Nico qui vous donne cette ordonnance. Bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne à 19h20.
Eh bien, on va se réjouir de la saison des festivals d'été qui est désormais ouverte, mais on va évidemment s'interroger sur la crise qui frappe nombre de ces manifestations culturelles. Alors pourquoi? Question d'argent évidemment, il y en a de moins en moins et partout et surtout dans la culture. Question d'alternance politique aussi, faut pas se mentir. Et puis peut-être une question plus globale, et si nos élites politiques ne voyaient plus l'intérêt de la culture au niveau national comme dans leur territoire? Olivier Pie ce matin, qui était l'invité de Patrick Cohen dans sa matinale, parlait de l'inculture des inclus, une belle formule qui fait un petit peu peur. Alors comment survivre? Comment s'adapter? Comment pallier la baisse de l'argent public? J'attends vos questions sur les réseaux sociaux et par téléphone, bien sûr, dès maintenant au 01 45 24 7000.
Merci beaucoup Hélène Jouan. Rendez-vous à 19h20. Le journal sur France Inter dans deux minutes.